Alors, comment ça se fait qu'on passe d'une boue crayeuse avec toutes ces coccolites qui se déposent pendant des millions d'années dans les fonds marins à une roche qui est indurée ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Parcourez les souterrains de la carrière Wellington lors de la deuxième visite au cœur de la craie. C'est le 26 avril le prochain. Une visite guidée inédite qui ne traite pas de l'utilité de ces souterrains lors de la Première Guerre mondiale, mais qui dévoile plutôt les secrets de la craie et de son extraction au Moyen-Âge. Par quel mécanisme géologique se forme la craie sous le sous-sol de l'Artois ? Comment lire la pierre ? Comment la craie a-t-elle été exploitée et utilisée au Moyen-Âge ? Le 5 avril dernier, nous avons assisté à la première visite et nous avons rencontré les deux médiateurs, Antoine et Pierre.
Alors, moi c'est Antoine, donc je suis guide à la carrière Wellington depuis 4 ans maintenant. Et avec un petit plus sur l'histoire médiévale, puisqu'à la base je suis historien, plutôt médiéval, puis là, forcément avec la carrière, beaucoup Première Guerre mondiale. Mais voilà, je suis guide ici depuis un petit moment maintenant.
Moi c'est Pierre, également guide à la carrière Wellington. Depuis juillet 2016, je travaillais avant aussi à la carrière Wellington en tant que vacataire. J'ai eu un poste de titulaire depuis juillet 2016, ça va faire bientôt 3 ans. Et mes études ont porté sur la géologie et la paléobiologie. Je voulais poursuivre ensuite après le master en faisant un doctorat. Et en attendant, je travaillais à la carrière Wellington justement en tant que guide. Et puis ensuite finalement ça s'est pas fait et j'ai trouvé mon bonheur à la carrière Wellington parmi l'équipe et j'y suis toujours.
Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire souterraine d'Arras et puis comment ces souterrains ont été construits ?
Alors, il y a plusieurs phases. Il y a déjà les carrières sous le centre-ville, ce qu'on appelle les boves, qu'elles seront des galeries souterraines du 9e au 12e siècle à peu près, qui vont servir de base hein, de carrière de craie, donc c'est pour prendre la craie pour construire juste au-dessus, que ce soit les remparts ou certains édifices religieux. Ensuite, avec le développement de la ville, on arrête de creuser en dessous pour des raisons de sécurité. Forcément, on a peur que ça s'effondre. Donc, dans ces cas-là, à partir du 12e, on va s'éloigner, on va venir dans les faubourgs, comme ici actuellement, côté carrière Wellington, donc les faubourgs Ronville, où là, on va réexploiter de nouvelles carrières de craie plus grandes, puisqu'elles vont être en exploitation beaucoup plus longtemps, jusqu'au 17e, vraiment pour l'utilisation de la craie, et même encore après, jusqu'au 19e siècle, où on va s'en servir pour faire de la chaux, qu'on va même exporter en Belgique, à Bruxelles et Anvers, pour la chaux. Donc la chaux, ça va servir de mortier pour la construction. Donc ça, c'est pour vraiment la création des carrières. Puis ensuite, toutes celles-ci seront réutilisées pendant la Première Guerre mondiale pour les besoins de la défense de la ville d'Arras.
Alors justement, ça a été utile pendant la Première Guerre mondiale. C'était un point stratégique pour les soldats ?
Arras en elle-même est un point stratégique. Déjà, c'est une des grandes villes au nord de Paris. Il y a beaucoup d'accès ferroviaire, donc forcément, quand on veut aller de la Somme à la côte belge où il y a le front aussi, c'est un point de passage important. Et oui, le fait d'avoir ces carrières souterraines, ça permet, notamment pour la bataille du 9 avril 1917, d'essayer de faire une attaque surprise pour déboucher en creusant des galeries et déboucher juste devant les troupes allemandes. Donc c'est vraiment un centre important. On est pile entre la Belgique, la Somme, vraiment la partie front britannique très importante.
Et comme l'a dit Antoine, le réseau de carrières se rapproche et dans les faubourgs Ronville et Saint-Sauveur. Et pendant la Première Guerre mondiale, il se rapproche en souterrain des lignes allemandes qui entourent, enfin de la ligne de front qui entoure Arras, qui encercle un petit peu Arras. Donc c'est justement les Britanniques qui ont vu l'utilité de ces carrières, car elles sont à 20 mètres sous terre, elles se rapprochent sous presque la ligne de front, en tout cas sous les lignes britanniques. Et leur idée de les relier avec des galeries était très bonne, parce que du coup, on part du centre-ville d'Arras, hein, avec les carrières des boves, et ensuite on vient sous les faubourgs Ronville et Saint-Sauveur, sans que l'ennemi ne puisse les voir.
Est-ce qu'il y avait des soldats qui vivaient dans ces souterrains ?
Tout à fait. Alors c'est vraiment première fois où ils vont vivre, c'est juste avant la bataille du 9 avril 17, ils vont rester quasiment une semaine sous terre pour cette attaque surprise. Mais même ensuite, encore après, en 1918, on a une grosse présence canadienne dans les carrières, ne serait-ce qu'en lieu de cantonnement, puisqu'ils sont à l'abri, c'est aménagé, il y a l'électricité, il y a des points d'eau, il y a tout ce qu'il faut pour que les soldats puissent se reposer en toute tranquillité. Même s'il y a un bombardement, eux, ils seront sains et saufs, donc ce sera vraiment utilisé de 1917 à la fin de la guerre.
Et est-ce que ces souterrains ont servi à autre chose ?
Ils seront réutilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, ce qu'on appelle la défense passive. où dans les années 30, on va commencer à les préparer parce qu'on sent bien qu'un nouveau conflit pourrait éclater avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Donc on va commencer à les préparer, on va faire un nouveau réseau électrique, de nouveaux points d'eau, des toilettes, des douches, tout ce qu'il faut à l'intérieur pour la défense passive. Là c'est pareil, c'est uniquement cette fois-ci pour la défense des civils, là, pour protéger les civils qu'on va les faire descendre ici dès qu'il y a un bombardement à l'extérieur. Là il n'y aura pas de combat issu des carrières, c'est vraiment que pour protéger les civils.
Est-ce que finalement les souterrains ont été utiles pour des besoins premiers, donc pour les caves par exemple ou pour des marchandises ?
Alors ça c'est vrai, plutôt vrai pour les carrières en centre-ville, pour les boves où là on va s'en servir de lieu de stockage pour les marchands qui sont sur la Grand Place et Petite Place pendant tout le Moyen-Âge, même encore après Première Guerre on va continuer à les utiliser comme cave. D'ailleurs aujourd'hui il y a encore des habitants qui les utilisent comme cave, mais vraiment l'objectif premier de pourquoi on descend sous terre et pourquoi on les creuse, c'est l'extraction de la craie pour la fabrication de bâtiments.
Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement combien il y a de kilomètres, combien il y a de mètres de profondeur ?
Alors, on compte 19 au total, tunnels et carrières. Il y avait 19 kilomètres de réseau souterrain sous Arras, en comptant les tunnels et les carrières, les tunnels qui ont été creusés pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des tunnels de connexion qui reliaient ces carrières ont été détruits, se sont effondrés. Donc on ne peut plus accéder à toutes les carrières à partir des souterrains. Mais il y avait pendant la Première Guerre mondiale jusqu'à 19 km de réseau souterrain sous Arras, carrières et tunnels compris.
Et après en profondeur, là il y a des nouvelles recherches archéologiques pour vraiment voir jusqu'où on est descendu, mais on descend sous les 20 mètres dans les parties maximum. Sous les 20 mètres, après en centre-ville on est dans les 8-10 mètres de profondeur.
Et actuellement, est-ce que tout ce qui a été conservé peut être accessible en visite ?
Malheureusement, on ne voit que la carrière Wellington, parce que dès qu'on de la carrière Wellington, on peut peut-être accéder à d'autres carrières. Mais là, on sort du parcours, on sort du parc de la carrière Wellington, donc on passe sous des habitations, sous du domaine privé, donc on ne peut pas y aller sans autorisation. Et aussi, la carrière Wellington a subi d'énormes travaux de renforcement pour la sécurité des visiteurs, et on ne peut pas se permettre de partir dans d'autres carrières et les faire visiter, malheureusement, parce que là, les contraintes de sécurité sont beaucoup trop grandes.
Alors, comment ces carrières sont devenues un mémorial ? C'est quand même une preuve de notre mémoire historique. Comment ça s'est adapté à la visite du public ?
Alors, ça c'est... Donc, la carrière a ouvert il y a 10 ans, maintenant, un peu plus de 10 ans. Après les travaux préparatoires, ça fait quasiment une vingtaine d'années. Les premiers archéologues, c'est dans les années 90, ou à descendre dans les carrières, qui vont commencer à étudier, à travailler aussi avec les chercheurs britanniques. Comme c'est une bataille menée par les Britanniques en 17, c'est surtout eux qui ont fait les travaux, qui vont travailler ensemble. Et ensuite, c'était en vue du centenaire, où ils ont décidé de construire ce bâtiment, ce musée, de renforcer en dessous et d'ouvrir au public, qui était ouvert en 2008, du coup, vraiment pour le centenaire de la Première Guerre mondiale et pour pas oublier ce qui s'est passé à Arras pendant la guerre et l'implication des Britanniques ici pour la défense de la ville.
Et on peut voir d'autres choses, il y a aussi un mur à l'extérieur. Dans le coin, il y a aussi un cimetière britannique, c'est bien ça ? Il y a d'autres choses, justement, reflet de notre mémoire ?
Depuis le centenaire de la bataille d'Arras en 2017, il y a plusieurs choses, en effet, dans le contexte autour de la carrière Wellington qui ont été inaugurées. On a un mur qui représente les portraits plus d'une centaine de tunneliers néo-zélandais qui faisaient partie d'une compagnie qui a creusé en partie les tunnels de connexion qui reliaient les carrières de la ville d'Arras. Et on leur rend hommage grâce à ces portraits qui sont sur le mur dans l'entrée de la carrière Wellington. De l'autre côté du mur, dans le parc, nous avons ce qu'on appelle le mur mémorial, là qui rend hommage à tous les bataillons et régiments britanniques qui ont participé à la bataille d'Arras d'avril 1917. Et on a également, depuis le 9 avril 2017, l'inauguration d'un monument, La Terre se souvient, réalisé par une artiste néo-zélandaise, Marianne Fontaine, où là on a une sculpture en bronze avec à l'intérieur la silhouette découpée d'un tunnelier néo-zélandais. On peut passer à travers cette structure monumentale.
Et ensuite il y a aussi, faut pas oublier le cimetière et mémorial du faubourg d'Amiens qui est juste à côté de la citadelle, où c'est le cimetière britannique à Arras, où beaucoup de corps de soldats qui sont morts pendant cette bataille du 9 avril 17 reposent. Aussi, le mémorial pour les disparus. Et là, va être inauguré, justement, pour le 9 avril donc 2019, un jardin juste à côté, dédié aux Écossais, qui ont combattu aussi à Arras. Donc, il y a plusieurs choses à Arras qui parlent de cette Première Guerre mondiale.
Donc, sous Arras, à quelques mètres, on n'a pas besoin de creuser énormément pour trouver cette craie. On trouve cette craie, donc cette craie, eh bien, elle est traçante, elle est facilement friable, elle se dissout très bien dans l'eau, elle est perméable, ça veut dire que quand il pleut à l'extérieur, on attend quelques jours, généralement 2-3 jours, hein, ouais. Antoine, ça commence déjà à perler. Donc véritablement ici, dans la carrière Wellington, on a une fenêtre temporelle sur ce qui s'est passé auparavant, on n'a pas besoin d'aller à Boulogne pour voir ça.
Et alors, très rapidement, pour pas lever le mystère sur la visite, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe une visite des souterrains ?
Alors là, on va être ensemble, donc Pierre et moi, pour cette visite. Pierre qui va commencer par expliquer tout simplement ce qu'est de la craie, déjà, comment elle arrive à Arras, qu'est-ce que c'est. Là, c'est vraiment son domaine, parce que c'est lui le géologue. Là-dessus, moi, je suis un peu paumé, faut bien avouer. Donc lui, il va vraiment expliquer la formation de la craie, ce que c'est, comment elle arrive à Arras. Et ensuite, je prendrai le relais sur... justement, l'exploitation elle-même, de quand elle date, pourquoi il nous faut autant de craie, parce qu'il y a vraiment des carrières immenses ici, pourquoi on a besoin d'autant de craie à Arras, et surtout comment on va la sortir de terre, comment l'exploiter à l'époque du Moyen-Âge, donc avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Alors, c'est vraiment une sorte d'introduction à tout ça, on n'aura pas les réponses à tout pour l'instant, puisqu'il y a des campagnes de fouilles qui sont en cours en ce moment. C'est un premier, on va dire, compte-rendu de ces recherches, de recherches que nous on a fait ici, de ce qu'on connaissait déjà, parce que justement on a souvent des questions là-dessus, comment ils faisaient, pourquoi c'est aussi haut, donc vraiment on va essayer de répondre déjà à ces premières questions, et plus tard quand les campagnes de fruits seront lancées et finies avec le rapport, on fera une autre visite vraiment complémentaire là-dessus.
Est-ce qu'il y a effectivement encore des recherches ? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir ?
Oui, en fait, là, comme l'a dit Antoine, on est vraiment en parallèle avec les fouilles archéologiques et les recherches géologiques qui sont en cours. On s'est aperçu qu'on connaissait en fait très mal l'histoire de cette carrière, mais l'histoire des carrières d'Arras, même aux origines. On connaît très bien parce qu'on a pas mal d'archives sur l'utilisation de ces carrières pendant la Première Guerre mondiale, peut-être un petit peu aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, ces archives à l'époque médiévale, on en connaît très peu. Et on connaît très peu également la géologie de ces carrières d'Arras. Pourquoi est-ce qu'on, comme le dit Antoine, pendant la visite, on va essayer de voir qu'est-ce que la craie, on zoome sur la craie, qu'est-ce que la craie, qu'est-ce qui vient la composer, pourquoi elle se forme en banc, pourquoi est-ce qu'on a des silex, la craie est-elle toujours pareille, que ce soit à 20 mètres, que ce soit à 15 mètres de profondeur, ou que ce soit à 10 mètres de profondeur sous Arras, pourquoi est-ce qu'on retrouve exactement la même craie aussi sur les côtes anglaises, qu'est-ce qui fait qu'on l'a à même pas 10 mètres sous terre à Arras, et ça veut dire aussi également, si là on repart sur l'époque médiévale, c'est que les carriers habitants de la ville avaient un certain savoir-faire, avaient certaines connaissances géologiques déjà pour pouvoir exploiter facilement cette craie, la récupérer facilement. Et c'est ce dont nous, on va essayer de vous expliquer le 26 avril prochain à 18h30 à la carrière Wellington.
Donc là, on a commencé à voir les particularités de cette craie. On a zoomé pour voir ce qu'il y avait dans la craie. On a dézoomé de plus en plus, hein, après avoir vu la mer de craie, le silex, les différents événements qui vont se passer au niveau de l'environnement, qui vont intervenir dans le durcissement de cette craie. Et là, on peut voir aussi dans la carrière qu'en plus des bancs bien distincts, on a des plans.
Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine et Pierre, médiateurs à la carrière Wellington.
Je pense que ces carrières, comme le disait Mathieu Béguin, finalement, ça a peut-être commencé au XIIe siècle dans le secteur où on est, le secteur Ronville, et puis ça va s'arrêter peut-être au début du XIXe siècle. Donc, on peut peut-être voir aussi l'évolution des techniques, des carrières, pendant toute cette période de temps. C'est sûr et certain qu'il y a un savoir-faire qu'ils avaient, mais peut-être ce savoir-faire a évolué au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Donc nous, en gros, notre visite, c'est on essaye de susciter l'intérêt du public. Et en plus, on travaille avec les archéologues et les géologues. Donc c'est vraiment un travail en parallèle qu'on est en train de réaliser là.
Et ils vont essayer aussi de faire des analyses encore plus poussées, microscopiques, tout ça, pour voir... on a tel type de craie à telle profondeur, est-ce qu'on va retrouver le même type de craie dans les constructions ? Alors, en analysant des pierres de l'ancienne cathédrale ou des anciennes murailles qui sont retrouvées en fouilles archéologiques, Voilà, est-ce que c'est vraiment la craie qui est d'ici? Quelle profondeur qui va servir pour les murailles ou pour la construction? Donc là, ils sont vraiment en train de chercher aussi là-dessus. À quoi a servi vraiment la craie? Parce que là, on sait que ça a servi pour la construction, on sait que ça a servi pour ça. Mais est-ce que c'est vraiment cette craie-là, de cette époque-là, à cet endroit-là, qu'on retrouve dans la cathédrale, par exemple, l'ancienne cathédrale ou autre?
Là, du coup, on ne peut pas affirmer que, en tout cas, tout le centre-ville d'Arras a été construit par cette craie. On ne peut pas l'affirmer, ça.
Non, parce que déjà, il y a énormément de carrières. Alors, on sait que dans ce secteur-là, première carrière qui s'ouvre aux environs du 12e, mais est-ce que c'est la carrière Wellington? Est-ce que c'est une carrière un peu plus loin? On sait que c'est rue du Temple, mais il y a plusieurs carrières sous la rue du Temple. Est-ce que c'est celle-ci qui va servir à construire la cathédrale ou est-ce que c'est pour construire les murailles? Il y a encore des questions en suspens et justement, ça, c'est les prochaines fouilles archéologiques. Là, c'est vraiment une introduction à tout ça et dès qu'on aura ces réponses, on fera une nouvelle visite.
C'était Antoine et Pierre, médiateurs à la carrière Wellington. La prochaine et dernière visite prévue, c'est le 26 avril à 18h30. N'hésitez donc pas à vous inscrire, le tarif est de 7,20€ et 3,50€ en tarif réduit. Retrouvez toutes les informations sur le site www.carrièrewellington.com.